bienvenue à cette édition de Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez l'édition du lundi Sport Universitaire. Charles Leblanc à l'animation. Je suis avec Victor Marchand. Comment ça va, Victor?
Ça va extrêmement bien, toi?
Ça va bien, ça va bien. Écoute, avec l'école et tout ça, on a un peu préparé ça vite fait, mais je pense qu'on a quand même un bon show aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Gros match de football hier. Vous allez voir un peu le lien avec le sport universitaire, mais les Alouettes ont battu les Blue Bombers à la finale de la Coupe Grey, 28 à 24.
Ouais.
Marc-Antoine Decoy, ancien des Carabins, a fait exploser les réseaux sociaux québécois avec sa conférence de presse. Comment t'as réagi un peu à ses propos?
Ben, au-delà de réagir à ses propos, ce que je trouvais intéressant avec tout ça, puis en faire un lien avec justement le sport universitaire, c'est que ce qui est le fun de voir ce que les Carabins ont fait aussi là, c'est d'amener justement des joueurs québécois, des joueurs qui ont joué à Montréal, qui ont joué à Laval. On regardait ça justement tantôt là par rapport à quels joueurs étaient là, mais tu sais, on parle d'une dizaine de joueurs qui ont joué pour les Carabins, qui étaient justement dans l'alignement ou en tout cas qui étaient dans le giron des Alouettes durant la saison. Il y en a justement 4 ou 5 qui étaient avec le Rouge également. Donc, tu sais, c'est des joueurs comme ça, puis c'est une organisation depuis que Danny Machocha est arrivé qui amène justement ce genre de joueurs-là, qui donne une chance aux meilleurs joueurs québécois de la province de se faire un nom dans la Ligue canadienne. Je pense qu'on l'a tous un peu détesté, Danny Machocha, dans le temps qu'il était entraîneur avec les Carabins. Mais depuis qu'il est là, il donne une chance beaucoup à ses anciens Poulains, à ses anciens Carabins, beaucoup d'anciens Carabins qui se retrouvent avec une chance, et le Rougeard aussi qui bénéficie un peu de ça avec quelques choix qui vont vers Laval. Donc, écoute, c'était bien justement de voir de quoi, parce que de quoi au final, au-delà du discours enflammé qu'il a fait sur la langue française et tout, ben il reste quand même un élément extrêmement important de cette conquête-là. Une grosse interception, joueur défensif, ou en tout cas joueur par excellence du dernier match, je pense, en demi-finale contre Toronto. Mais c'est ça, donc de voir autant de Québécois qui peuvent faire leur marque, ben tu sais, c'est une belle preuve de respect, puis c'est une belle preuve que justement le Québec devient de plus en plus fort au côté football. C'est un peu le rêve de Glenn Constantin qui se réalise, parce qu'il l'avait dit quand il est arrivé à Laval il y a plusieurs années, il voulait rendre le Québec comme le Texas du football. Donc le Texas qui est reconnu comme peut-être la place qui développe le mieux des jeunes joueurs pour le futur, pour le collégial, pour la NFL. Ben là, tu sais, on voit que le Québec s'améliore beaucoup, va chercher des joueurs comme ça qui sont de meilleur en meilleur. Donc vraiment bien de voir autant de Québécois faire leur place, faire leur marque, et ça se termine avec une belle victoire pour les Alouettes.
Ouais, exact. De quoi que un peu comme Machocha, là, on a aimé le détester à Québec.
Ouais.
Probablement le joueur des Carabins, là, personnellement, qui m'a le plus marqué.
Ouais.
Surtout avec ses cheveux longs, là, il est dur à manquer. Ouais. Tu savais qu'en défense, là, une terreur.
Ouais, puis c'est un joueur qui avait des bons matchs au bon moment. Je sais pas si tu te rappelles de ce match-là contre le Rougeard, mais une interception, je pense, sur un jeu truqué d'un botté qui avait pas été un botté, finalement une passe à intercepter pour un toucher. Si je me rappelle bien, c'était quelque chose comme ça. Mais ça avait donné justement la victoire un peu aux Carabins dans ce match-là. Donc c'est un joueur qui était capable de se lever dans les grandes occasions. C'est un joueur qui va probablement être le cœur et l'âme de cette équipe-là pour les prochaines années. Mais c'est bien de voir un Québécois comme ça qui réussit à faire sa marque dans une ligue qui, dans les dernières années, a montré que beaucoup d'Américains qui reviennent des États-Unis après des essais dans la NFL, qui se retrouvent à avoir des postes, ben, tu sais, on voit que le football canadien reste bien dans celle et réussit à avoir des bons joueurs. Écoute, la position, je pense, qui est encore le plus difficile pour les Canadiens, c'est le poste de carrière. On a vu des gars comme Nathan Rook qui arrivait des États-Unis qui a eu une chance finalement, c'est rejoint les Jaguars de Jacksonville dans la dernière année. Mais là, tu sais, est-ce qu'on en a d'autres qui s'en viennent? Et on a parlé de Trey Ford dans les dernières semaines, un gars de Waterloo. Mais là, il y en a un autre qui s'en vient peut-être, là, Jonathan Sénécal. Il lui reste, ben, le reste de ses séries avec les Carabins, mais une autre saison par la suite. Après, pourrait justement se retrouver dans les Canadiens de football. Est-ce que c'est le futur, justement, québécois à ce poste-là? Est-ce qu'on aura peut-être enfin un carrière québécois qui pourra se faire une place dans une équipe canadienne? Ben, je l'espère, parce que c'est un poste qui a été difficile à combler pour les Québécois. Hugo Richard avait essayé de le faire.
Ça n'a pas fonctionné finalement. Ouais, il y a eu une carrière universitaire exceptionnelle. On se disait, si c'est quelqu'un, c'est lui.
Ouais.
Mais je suis pas sûr, tu sais. Les Alouettes, ils ont donné une chance, mais je sais pas s'il y a vraiment grand monde qui y croyait tant que ça.
Ouais.
Mais là, Sénécal, tant qu'à moi, a plus d'armes, je pense, qu'il peut amener au prochain niveau. que Hugo Richard. Fait que, ouais. Honnêtement, je pense, encore une fois, si c'est quelqu'un, je pense que c'est lui.
Ouais.
On va voir, on va voir ce que ça donne.
C'est que Hugo, sent-il qu'il n'avait pas le talent de Sénécal, je pense que Sénécal est vraiment à un autre niveau. Dans le sens que tout ce qu'il fait, il le fait mieux que tout le monde. Je veux dire, quand on parle du meilleur joueur, peut-être à avoir vu le football universitaire à Québec, c'est probablement pas faux, là, parce que c'est un joueur qui est unique, c'est un joueur qui fait tout ce qu'il veut sur un terrain de football. Et tu sais, c'est un joueur qui est meilleur que n'importe qui. Là. Donc, il joue mieux que n'importe qui, il pense mieux que n'importe qui. Donc, des fois, il fait des erreurs, puis c'est pas son erreur, c'est le fait qu'il est tellement intelligent pour le jeu qu'il fait une passe et le receveur a pas l'impression que la passe va aller vers lui parce que la passe simple possible échappe le ballon. Tu sais, c'est le genre de jeu, je pense que c'est le genre de joueur qui peut vraiment exploser rendu au niveau supérieur, qui va arriver avec les meilleurs athlètes au Canada, même aux États-Unis. On verra ce que ça pourra donner pour lui. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, c'est une position qui est difficile parce que, tu sais, c'est la position la plus importante, certainement. Puis c'est une position où est-ce qu'il y a trois carrières qui font leur place dans chaque équipe. Il y a 8 équipes.
Okay, si ça on fait le calcul, place, ça, ouais, ça il y a 30, 30 équipes dans la NFL.
Ouais, exact.
Les Américains qui cherchent une job là, au poste de
ouais,
corps,
il y en a
beaucoup. Là, le football universitaire américain, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de bons Canadiens dans la Ligue canadienne, mais c'est ça, il y a des positions encore difficiles à atteindre.
Exact, parce que tu regardes la ligne à l'attaque, je veux dire, t'as 5 gars en tout temps qui sont sur la ligne à l'attaque, puis t'as 2-3 remplaçants par poste. Donc, tu sais, au final, ça t'ajoute du monde, là. Ça t'ajoute beaucoup de monde. Donc, vraiment, c'est clairement à ce niveau-là un poste qui est difficile à combler. Et si Jonathan Sénécal était pour faire quelque chose, ça serait exceptionnel, c'est clair.
Ouais, un autre poste qui est difficile à combler, c'est là de receveur. Ouais. Il y a quelques Canadiens quand même là, qui se démarquent bien. Peut-être que Mittal pourrait faire sa place aussi. Là.
Ben, il a le talent. On verra s'il passe par le repêchage dès l'année prochaine. Mais si jamais il était pour être repêché, j'ai l'impression que les Danny Machocha, ce monde, vont être intéressés de l'avoir dans leur équipe. T'sais, on voit un gars comme Tyson Philpott. C'est un joueur qui a été extrêmement dominant à Calgary dans ces années. Et là, c'est lui qui a fait le toucher gagnant hier en fin de match pour les Alouettes. Ben, c'est un gars qui a joué à Calgary. C'est un gars qui avait un frère, justement, qui joue encore dans la Ligue aussi dans la CFL. C'est un joueur qui est dominant, puis qui était dominant aussi avec les Dinos. On l'a vu ici à Québec, tu as eu la chance de voir cette coupe Vanier-là, je pense que c'était contre Western il y a quelques années. Ben, il était là, il avait été dominant, il avait vraiment fait tout ce qu'il voulait sur le terrain. Donc, c'est le genre de joueur qui était peut-être même pas au niveau de Mittal, parce que Mittal a vraiment une saison exceptionnelle l'année passée. Donc, si Mittal peut retrouver la forme qu'il a eu l'année passée, qu'il peut continuer à s'améliorer, ben si c'est pour être la Ligue canadienne dès cette année, ben je m'attends à ce qu'il soit peut-être la prochaine vedette canadienne au Canada. C'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui sait exactement ce qu'il doit faire pour devenir le meilleur. Et on va voir ce que ça donne, mais je serais pas étonné que les Alouettes pensent à lui rapidement dans le repêchage. On verra si les équipes vont avoir été refroidies par les impacts des affaires judiciaires qu'il y a eu sur lui, et s'il y a eu un impact avec ses blessures. Mais c'est un joueur qui a le talent pour devenir un monstre dans cette ligue-là.
Ouais, ça me fait un peu rêver. Un duo Sénécal-Mittal au prochain niveau.
Le pire, c'est qu'ils ont joué ensemble durant les dernières années, là, parce que ces deux gars-là ont joué à Grasset ensemble pendant 2-3 ans, je pense. Là. Sénécal avait été blessé une de ces années-là, mais les années qu'ils étaient ensemble, c'était un duo de feu. Là. Vraiment, là, à Grasset, il n'y avait rien qui pouvait se mettre sur leur passage. On gagnait tout. On gagnait des bols d'or ensemble, entre autres contre Garneau. Donc, vraiment, là, c'est deux joueurs qui pourraient refaire la pluie et le beau temps. On les a vus justement contre les Carabins, Kevin Mittal dans l'avant match là, qui arrêtait pas justement de narguer et Jonathan Sénécal qui lui parlait. Sénécal qui lui parlait pas, mais ces deux gars qui se connaissent, ces deux gars, je sais pas à quel point ils sont encore amis puis à quel point ils se voient encore beaucoup, mais je sais que au moment qu'ils étaient avec Grasset, ces deux gars qui s'aimaient beaucoup puis qui étaient complices sur le terrain. Donc on verra justement si cette combinaison là peut se continuer dans les prochaines années.
Ouais, puis aussi tu sais, on en a parlé là, beaucoup de joueurs des Carabins, beaucoup de joueurs du Rouge et Or avec les Alouettes. Je sais pas si tu as vu un peu passer là. Il y a un reportage de un journaliste de TVA Sport qui son nom m'échappe mais qui est allé voir l'état-major des Alouettes, puis le français était beaucoup mis de l'avant. Le coach forçait les joueurs, faisait des caouts avec ses joueurs pour apprendre le français, créer une identité, puis ça paye là.
Ben, c'est beau à voir parce que ça reste la seule équipe québécoise où est-ce que dans cette ligue-là. Puis justement, c'est un entraîneur justement qui ne parle pas français normalement.
Il est un seul américain, exact. Là, si
donc,
je me trompe pas, là.
Il a dit en début d'année qu'il voulait prendre des cours, qu'il voulait apprendre le français. Écoute, c'est une équipe qui arrivait de loin. Là. C'est une équipe qui a été
classée 8e. Ben, c'est dans les power rankings. Ouais, classé dernier, personne ne les attendait là.
On les attendait pas du tout. Et là, on voulait faire une belle histoire. On verra justement si on peut le répéter ou en tout cas avoir une bonne saison encore l'année prochaine. Tu sais, c'est tout le temps une ligue bizarre parce que c'est une ligue à 8 équipes qui fait que
il y a du roulement, tu peux avoir un mauvais début de saison, ouais. Faire les séries quand exact. Même un peu. Tu sais, Montréal a très bien fini, 8 victoires de suite là en comptant la Coupe Green, ouais. Mais ça a starté un peu mollo, tu sais, ça a donné un peu raison aux prédictions finalement, ça se sont replacés. Ouais. Puis ça appuie beaucoup sur les Québécois. Honnêtement, le football universitaire québécois aussi grandit. On le voit là avec les Carabins, leur victoire à la Coupe UTEC, 29 à 3 contre Western. Si je me trompe pas, Western était premier dans les power rankings de U-Sports.
Ouais.
Finalement, une dégelée. Le match le plus serré de Montréal, ça a été celui-là à la Coupe d'Onsmore contre Québec.
Ben, ça risque d'être le match le plus serré qu'ils ont
vu. Ouais, il y a eu un autre match serré contre Concordia. Ouais. Concordia, tu sais, on en a parlé la dernière semaine ou l'autre d'avant, mais c'est peut-être qu'il mériterait plus de respect, là, avoir donné un gros match à Laval, un gros match à Montréal. Quand on voit comment Montréal passe sur le corps de Western, peut-être que, tu sais, on dit souvent que c'est une ligue à deux équipes. Mais peut-être qu'il y a des équipes au Québec aussi qui pourraient rivaliser avec les équipes de l'Ontario, là.
Ouais, c'est clair. Je pense que présentement, on est en train de voir. C'est un roulement. On en parle beaucoup que, justement, ça dépend des années, des QV partout au Canada. Mais depuis l'année passée, je dirais que la meilleure conférence de loin, c'est celle du Québec, tu sais. L'an passé, oui, le match avait été serré contre Western, mais entre Laval puis Western. Mais la seule raison pourquoi ça avait été serré, c'est Louis-Georges qui se cite dans le pied au premier quart.
Après revirement.
Exact. Revirement qui amène des touchés. Je pense que c'était 17-0 ou 17-3 à la mi-temps.
17-3.
C'était un match au final qu'on a eu besoin d'une remontée. Et à partir du moment que Louis-Georges a commencé à jouer, on n'a jamais revu Western. Puis Western, l'année passée, c'était une équipe qui était extrêmement solide, là, parce qu'on avait une équipe qui était à maturité avec un porteur de ballon qui était extrêmement solide, une ligne à l'attaque qui était solide aussi. Défensivement, même chose. Là, on avait une défensive qui avait perdu des morceaux, une ligne à l'attaque qui avait perdu des morceaux aussi. On sentait que c'était peut-être pas leur année. On a eu un peu plus de misère en Ontario par rapport aux dernières années. Et au final, je pense que les constats que ça nous fait pour cette année, on verra si ça se continue pour l'année prochaine, mais c'est que les défensives en Ontario sont extrêmement mauvaises. Là, dans le sens que
comparé à celle du Québec, tout de moins, là.
Parce que, je veux dire, on n'a pas vu... Puis c'est que dans des matchs comme ça, comme la Coupe Mitchell, comme la Coupe Vanier, c'est tout le temps plus difficile parce que c'est une équipe que tu vois pas beaucoup. Et là, on a vu Montréal passer sur le corps là, de Western. Et Western a pas de défaite. Oui, ils ont eu des matchs plus serrés, mais c'est des matchs justement où est-ce que les équipes marquaient beaucoup de points. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de voir justement que les équipes ontariennes ont peut-être pas les mêmes types de défense qu'au Québec. Je pense qu'au Québec, on a vraiment présentement les meilleures défenses au Canada. Mais écoute, c'est une belle démonstration de force de Montréal et je pense que sans l'ombre d'un doute, le Rougeard aurait probablement gagné ce match-là contre Western si c'était eux qui avaient été en finale.
C'est sûr que là, c'est des scies, là, c'est le sport, mais...
Mais de la façon que Western a joué, je veux dire, on lance 3 interceptions, on a deux échappées, on a 5 revirements. Là-dedans, je pense pas que Hillock a joué le match de sa vie, mais je pense pas qu'il avait beaucoup de ressources pour faire mieux. On l'a vu, c'est le genre de joueur, on parle souvent d'occasions, il a eu 2 occasions. Il en a eu une l'année passée contre le Rougeard, on l'a vu vraiment. Là, moi, Pascal et Guillaume, on était vraiment surpris de la façon qu'il passait le ballon. C'était pas le meilleur passeur de loin. Les passes se rendaient pas à ses receveurs sur les longue passe, ça marchait pas. Il a un peu fait les mêmes erreurs cette semaine. Écoute, son temps, lui, je pense que c'est sa 3e année. Il reste quelques années encore à Western, mais tu sais, on sent que plus que ça avance, moins qu'on se retrouve à réussir à aller loin. Donc, on verra ce qui arrivera dans les prochaines années pour Western. Et là, tu sais, pour eux, ben, on verra. L'année prochaine, on a encore une Coupe Vanier qui va être dans notre province, à Queens. Est-ce que Queens va pouvoir se battre pour aller chercher leur Coupe Vanier? Parce que Queens a clairement été cherché. Parce que la Coupe Vanier sera à Queens contre Saskatchewan pour Montréal, mais Queens voulait probablement au moins avoir 2 chances de se rendre à cette vanille-là. Donc, cette année, ça a pas marché. Mais est-ce que l'année prochaine, on aura une équipe à maturité? Peut-être. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais écrit au début de l'année en faisant la prédiction pour Lavanier. J'avais dit que ça allait être l'équipe du Québec contre UBC. Au final, j'espérais que ce soit Laval.
Ouais.
Mais je l'ai presque eu, je l'ai eu, dans le sens que l'équipe du Québec s'est rendue contre UBC en finale. Mais écoute, même UBC, dans leur match, oui, ils ont dominé l'Atlantique.
Mais on en parlait la semaine dernière, là, t'es supposé de dominer contre
oui,
l'Atlantique.
C'est un match qui aurait pu finir encore pire que ça, là, parce que c'est un match qui se termine 47-14, 47-17. Mais tu sais, j'ai juste l'impression, après un quart, après deux quarts, c'était 17-10. C'est pas une équipe qui m'a beaucoup impressionné. C'est une équipe, tu sais, qui a un échappé, qui a trois interceptions dans le match, qui a provoqué trois interceptions dans le match. On échappe le ballon trois fois pour UBC. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'on fait des erreurs et on était chez nous, on était à la maison, on n'a pas eu besoin de faire le déplacement comme Saint-Effect a eu besoin de faire. Il a dû faire 7-8 heures d'avion pour se rendre là. Donc, on s'attendait, moi, je m'attendais à une dégelée encore pire que ça si on veut battre les Carabins. Et là, j'ai l'impression que les Carabins ont le beau chemin, là. On la belle vie d'ici à samedi. On verra s'ils peuvent aller chercher cette victoire-là. Mais j'ai l'impression que le chemin est tout tracé pour eux. Puis que si on était pour l'échapper, ce serait simplement notre faute. On aurait un mauvais match ou quelque chose comme ça parce que vraiment, là, on a vraiment un beau chemin, là, pour aller chercher cette vanille-là. Aller peut-être chercher notre deuxième coupe vanille en notre histoire.
Ouais, c'est à la portée des Carabins, là. Évidemment, c'est du sport. Faut pas qu'ils prennent le match à la légère. Mais moi non plus, j'ai pas été impressionné par UBC. Je pense que c'est l'année des Carabins. Ça fait un bout que je le dis.
Ouais.
On verra. En plus de ça, l'année prochaine, ils gardent leur noyau de bons joueurs. Honnêtement, ça risque... On risque peut-être de voir du bleu, là, assez souvent autour des récompenses canadiennes universitaires.
On va voir. L'année prochaine, tu sais, c'est ce qui est drôle là-dedans, c'est que je me rappelle l'année passée, quand j'avais fait la description des matchs en début de saison, on était à peu près unanime pour dire, OK, ça va être l'année des Carabins. L'équipe avait presque pas perdu de grands joueurs, là, où genre se cherchait beaucoup. On avait une saison un peu moins bonne l'année d'avant. Au final, on a une excellente saison chez Goujard. On va chercher Lavanier. Donc, l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver? Probablement qu'on va se dire la même chose, que c'est l'année des Carabins et tout. Est-ce que le Goujard peut sortir fort, aller chercher une grosse saison? On verra. Les conditions sont pas pareilles parce qu'on aura probablement pas de Kevin Mittal pour faire des miracles, mais on sait pas, quelqu'un peut se lever. Si quelqu'un peut se lever, faire une différence, avoir une saison monstrueuse. Mais en fait, quelques joueurs, là, parce que c'est un travail d'équipe. Mais si l'équipe peut avoir une bonne saison, on sait jamais ce qu'il peut avoir.
Bon, exact. Même Arnaud Desjardins, que je dirais que, tu sais, on parlait du match contre Western en demi-finale l'année dernière, des revirements. Depuis sa saison, tu sais, depuis le début de sa carrière universitaire, c'est un peu ça qui revient, la gestion du ballon. Mais c'est encore un carrière jeune qui progresse encore. Si l'année prochaine, on règle ce problème de revirement, je pense qu'on a des résultats différents contre Montréal. À tout de moins, tous les matchs sont serrés.
Exact.
Donc, on verra.
Et au final, j'allais revenir là-dessus. Puis sur le recrutement et tout, je veux dire, quand on regarde les bols d'or qu'il y a eu en fin de semaine au collégial, je veux dire, dans les trois divisions, on a des équipes de Québec qui étaient là. Je me rappelle pas exactement c'était quoi le bol d'or en division 3. C'était
Jonquière
contre Victoriaville, ouais.
Exact.
Mais c'est deux bassins la division 3 est un peu moins utilisée, mais c'est quand même deux bassins qui sont plus proches de Québec que de Montréal.
En division 2,
Lévis-Lauzon était là. On a perdu finalement contre Saint-Hyacinthe, mais on avait une équipe qui était là, qui perd par 10. Et en finale de division 1, Limoilou est allé chercher son deuxième championnat de suite en battant Grasset dans un match au final qui a l'air serré parce que Grasset a marqué en fin de match, mais ça a été vraiment un superbe match de la part des Limoilou. On verra, on a un cas ailleurs probablement qui sera, je pense que les honneurs sont pas encore sortis, mais un cas ailleurs de Limoilou qui devrait être le joueur par excellence Jérémy Ouellet qui a finalement couru pour 112 verges dans le match, a lancé le ballon pour 127. On verra, écoute, ce qui arrivera avec ce carrière-là. C'est le genre de carrière que je suis vraiment curieux de voir ce qu'on pourra faire avec lui. Est-ce que une équipe comme Concordia pourrait peut-être vouloir avoir une certaine compétition avec lui, avec Xavier Tremblay qui est sorti de Laval l'année passée. Il y a un autre carrière qui est là dans l'équipe aussi, mais je veux dire, c'est des carrières qui sont mobiles, qui peuvent courir si jamais leur attaque le permet. Donc, c'est le genre de joueur que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire au prochain niveau. Qu'est-ce que sera sa décision? Est-ce qu'il ira vers l'Ontario? Est-ce que Laval semble avoir des joueurs en place pour bien faire? Là, on a même déjà recruté un troisième carrière, donc on semble avoir trois carrières assez solides pour les 3-4 prochaines années. On verra ce que sera la décision. Charland semble être le carrière de l'avenir quand Desjardins sera plus là. Donc, probablement que Ouellet sera pas pour Laval, mais qui pourra aller le chercher? Est-ce que une équipe comme Sherbrooke, une équipe comme Concours, peut-être en Ontario, on verra ce que sera sa décision à ce niveau-là. Et même du côté du secondaire, ben, on avait une autre équipe de Québec qui était là, avec Saint-Jean-Eudes qui va battre le Collège Bourgeois. Donc, vraiment, le football québécois qui va bien. Un carrière aussi à Saint-Jean-Eudes qui sera à surveiller pour les prochaines années. Ça risque d'être loin, le 2027, je pense, pour lui, avant qu'il soit à l'universitaire. Mais Nathan, je veux pas briser complètement son nom.
Inventer un nom fictif, mais
Drapeau, c'est sûr, c'est ça, Drapeau, mais j'essaie de voir juste rapidement si c'est ça. Mais il me semble que c'est Nathan Drapeau,
ça. Le football à Québec est en santé. Juste l'année dernière, si je me trompe pas, Limoilou avait gagné, ouais. Mais il y avait en finale, c'était
contre CNDF.
CNDF, Garneau était en demi-finale aussi. Donc, tu sais, trois équipes sur quatre là, de Québec en demi-finale.
Ouais. Eliott Drapeau.
Ouais. Ça revient un peu sur mon point. Tu sais, est-ce que je pense que dernièrement, les équipes du Québec, l'universitaire mérite plus de respect. Je me rappelle plus exactement du classement U-Sport, mais Western en premier. Alors que, tu sais, quand les Carabins ont passé sur le corps de probablement la meilleure division universitaire.
Ouais.
Laval n'était pas troisième, si je me trompe pas.
Non, Laval était, je pense qu'il était quatrième ou quelque chose comme ça.
Je pense que souvent dans l'histoire, Montréal et Laval devraient être premier, deuxième, là, interchangés.
Ouais.
Je sais pas si ça va changer. Évidemment, c'est un peu difficile de mettre Western, mettons, troisième quand ils n'ont aucune défaite dans leur saison.
Ouais.
Mais
ouais, on verra. Écoute, on verra l'année prochaine ce qui arrivera. Peut-être que l'équipe va avoir eu avec le, tu sais, on est un peu moins conscient du recrutement qu'ils font de leur côté en Ontario, mais ce sera à voir. Et pour revenir justement sur Eliott Drapeau, je vais arrêter de l'appeler Nathan, je vais commencer à l'appeler Eliott pour vrai, mais c'est le genre de joueur justement qui a été extrêmement solide dans les dernières années. Écoute, c'est une saison pour lui, 2600 verges en 9 matchs, 28 passes de toucher, une interception. C'est un gars vraiment, c'est un solide carrière qui sera à surveiller, peut-être aux États-Unis, qui sait, ou peut-être à Laval ou dans la RSEQ, peut-être le prochain justement prodige comme Jonathan Sénécal. Un autre joueur qui sera à surveiller, ce sera celui qui était à Bourget, mais qui a été blessé en fin de saison. Malheureusement, n'a pas pu jouer le match de finale, mais c'était Connor O'Connell. Donc, un autre joueur qui sera à surveiller, un gars qui est extrêmement mobile, capable de courir avec ses jambes. Donc, on verra. Ces deux gars-là, c'est probablement le futur des carrières québécois au Québec. Donc, on verra ce qui arrivera avec
eux. Des noms à surveiller.
Des noms à surveiller. C'est pas tout de suite, dans 3-4 ans, mais quand ils seront là, vous pourrez dire que vous en avez entendu parler en 2023 à Chies, exact.
Exact. J'aimerais ça qu'on termine ce bloc-là en parlant de Mathieu Betts, un ancien du Rouge et Or. Selon moi, pour son... le meilleur joueur du programme à Laval. Je sais que Mittal est en compétition avec lui, puis d'autres noms aussi. Là, on peut parler à l'entraîneur, celui qui s'occupe du recrutement en ce moment.
Mathieu Bertrand.
Oui, exact, Mathieu Bertrand. Plusieurs grands ont passé par le programme du Rouge et Or, mais je pense que lui, il a montré pendant 5 ans à quel point il était dominant.
Ouais.
Puis il continue sur sa lancée. Ouais. Il a eu des essais en NFL avec les Bears. Ça s'est pas concrétisé. Il est revenu dans la CFL avec la LCF, pardonnez-moi, avec Edmonton. Ouais. Ça a pris un peu de temps aussi à se mettre en marche, là, mais depuis qu'il est à Vancouver avec les Lions de la Colombie-Britannique, connaît d'excellents moments. Il a battu le record pour le nombre de sacs dans une saison.
Canadien. Mais ouais, pour un joueur canadien. Ouais, j'allais vérifier justement quand tu me parlais de ça, mais ouais, je pense que c'est pour un joueur canadien. 18 sacs quand même, là. C'est fou,
énorme,
là.
Puis on parlait que sur la ligne, il y a peut-être plus de joueurs canadiens qu'au poste de corps, mais ça reste que c'est une ligue qui est souvent les meilleurs joueurs, là, ceux qui ont des records, c'est les Américains.
Ouais. Écoute, c'est un joueur, comme tu le dis, à Laval, qui a été dominant. C'est un gars qui a deux Coupes Vanier. C'est un gars qui l'a gagné en 2016 et en 2018. Il a été recru de l'année globale en 2015. Je pense pas que cette année Laval va refaire le coup. Là, Justin Cloutier a été excellent, mais je pense qu'on aura une recrue de l'année un peu plus costaud d'ailleurs dans les autres conférences. Mais quand même, c'est le même titre en fait. Justin Cloutier est en lice pour ce même trophée-là de le Peter Gorman Trophy. Sinon, il a gagné justement le prix pendant 3 ans pour le meilleur joueur de ligne, autant offensive que défensive, en 2016, en 2017, en 2018. Et finalement a finalement été un joueur étoile justement cette année sur l'équipe d'étoiles dans la Ligue canadienne.
Exact, et le joueur canadien par excellence.
Exact. Donc c'est ça. Donc c'est une belle façon de faire là pour lui, de montrer justement que qu'il est capable de bien faire. Encore une fois, c'est un joueur qui a été dominant partout où il a passé, à Laval, même chose. Mais tu l'as dit, c'est probablement le meilleur joueur défensif. En tout cas, peut-être pas le... Parce que le fait d'être meilleur, c'est des fois débattable parce que des joueurs
ouais,
qui sont...
Ouais, il y a un débat, là.
Ouais, mais c'est que les joueurs de ligne à l'attaque n'ont pas nécessairement le même impact qu'un joueur sur la ligne défensive ou qu'un carrière ou qu'un receveur. Mais je dirais que c'est probablement le joueur qui a eu le plus gros impact au prochain niveau qui a passé par Laval. Est-ce que c'est le meilleur joueur à être passé par Laval? Moi, je continue à croire que Mittal, avec la saison qu'il a eu l'année passée, c'est probablement le plus talentueux. Est-ce que c'est lui qui a la plus belle carrière parce qu'il a été seulement là 3 ans?
C'est un peu pour ça que je place exact. Mathieu Betts ouais. en premier, mais tu sais, ça fait, ils font partie des grands.
Ouais. Et là, on verra. Écoute, est-ce qu'il aura un essai dans les prochaines semaines dans la Ligue nationale de football, peut-être, ou cet été, là, après la saison? Tu sais, c'est possible, là. C'est pas impossible avec la saison qu'il a eue. Je pense que ça lui aurait fait encore plus de bien de pouvoir se rendre jusqu'à la coupe Vanier et pouvoir jouer justement ce match-là et dominer et prendre peut-être faire des sacs du corps, aller chercher peut-être le titre de joueur par excellence de cette coupe-là. Malheureusement, c'est pas rendu là, mais je pense que c'est le joueur qui mérite un essai là, avec le talent qu'il a, avec comment il a réussi à bien faire. C'est pas un joueur qui est tellement vieux, là, un gars de 28 ans. Ouais. C'est encore un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Là. Je comprends que ses meilleures années sont encore devant lui, mais il en reste pas beaucoup. Donc on verra justement quelle sera la décision, parce que la NFL, il va probablement pas essayer un joueur de 30-33 ans.
Non, c'est mais, ça, c'est maintenant ou ouais,
exact,
jamais.
Exact,
là.
On verra donc quelle sera la décision pour lui, mais c'est un joueur qui peut vraiment dominer. C'est un gars, écoute, a été repêché 3e en 2019 dans la Ligue canadienne. Je pense, écoute, si Kevin Mittal avait eu une excellente saison cette année, il aurait peut-être pu se battre pour aller chercher un choix dans le top 3, peut-être battre ce
record-là.
Mathieu Betts pour ce poste-là, mais écoute, probablement qu'il sera pas repêché aussi haut, mais quand même, c'est un joueur qui était dominant puis qui a dominé partout où il allait, donc vraiment bravo pour lui, bravo à lui, un joueur qu'on pourra continuer à suivre, voir s'il sera dans la NFL ou s'il continuera avec les Lions de la Colombie-Britannique.
Ouais, autant nous on a fait des cauchemars en regardant ouais. Marc-Antoine de quoi jouer, je pense que les partisans des Carabins ouais, ont fait des ouais. cauchemars en regardant jouer Mathieu Betts. Au retour de la pause, on va parler un peu de l'actualité du Rougeard et les derniers matchs qu'il y a eu dans les différentes équipes. Vous écoutez Constante Sportive sur les ondes de CHIS 94.3.
Écoute locale avec CHIS 94.3.
Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Garde à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues!
Écoute locale! La playlist!
Lundi, 14h! On sauve la musique!
À CHIS 94.3.
Retransmis en direct des ruines de l'Empire britannique, je vous propose d'embarquer dans un voyage dans le temps à la rencontre des sonorités qui ont fait vibrer la jeunesse anglaise des années 60 à 90. Cool Britannia, c'est tous les jeudis de 10 à 11h sur CHIS 94.3 et c'est la seule émission où un Belge va vous parler pendant une heure d'Angleterre depuis le Québec.
Allô chérie, je m'en viens, à tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô chérie, je m'en viens, à tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand
viens...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Très bienvenue sur les ondes de CHIS 94.3. Victor, tu me contreras ça après la fin de l'émission.
Non, on va en parler durant l'émission.
On va en parler. Ouais, ben écoute, encore une fois, un bon week-end pour le Rougeard.
Ouais.
Plusieurs victoires. Je regarde ça.
Je l'ai. Veux-tu que je les dise?
Seulement 2 défaites sur 6 matchs, je pense, Toto, au total. Oui,
j'y vais.
Tu peux parler
un peu
des matchs, si tu veux. Vas-y.
Le Rougeard qui a commencé cette semaine-là, le jeudi, en étant à Bishop avec le basketball. Les filles de basketball sont allées chercher une victoire de 75-72 sur un 3 points pour finir le match. Là. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, c'est qui? J'imagine, là, j'ai un blanc sur
son
qui
nom était... m'échappe, mais écoute, c'est un super, oui, vas-y.
Je vais le chercher après, mais oui, c'était un 3 points miraculeux pour aller chercher cette victoire-là contre Bishop. C'était un match qu'on attendait peut-être pas à être aussi serré pour les filles du Rougeard, mais finalement, on va chercher une autre victoire. On n'a toujours pas perdu à ce moment-là. Le Rougeard chez les gars avec le basketball, ça a été un match un peu plus difficile, défaite de 96-80. Après avoir limité la meilleure équipe à une 60aine de points, on se fait un peu exposer défensivement avec un match parce qu'on accorde près de 100 points. C'est rare, universitaire, qu'on accorde autant de points, même qu'on en marque autant. 80, c'est quand même beaucoup là pour un match universitaire. Mais voilà, donc le Rougeard qui perd par 16 ce match-là, qui avait toujours pas de victoire à ce moment-là avec 3 défaites. Finalement, on avait vendredi 2 matchs de volleyball importants. Chez les filles, on affrontait l'Université de Ottawa. On sait comment ça marche au volleyball. C'est des 3 de 5, là, donc t'as besoin de gagner 3-7 sur 5 pour l'emporter. On perdait 2-0 au nombre de 7 dans ce match-là. On est revenu, on a gagné les 3 derniers sets pour aller remporter ce match-là face à Ottawa. Donc les filles du Rougeard qui réussissent à aller chercher une grosse victoire à ce moment-là. Au volleyball masculin, on continue sur notre belle lancée en battant les Carabins comme on l'aime le faire par la marque de 3-2.
Peu importe le sport, peu importe la discipline, ouais, battre les Carabins, c'est tout le temps le fun.
Et finalement, au basketball féminin, samedi, donc on avait 2 matchs, les filles ont gagné par la ridicule marque de 71-42, une domination face aux Redbirds de l'Université de McGill. Et le Rougeard, les gars, ont gagné contre les Redbirds, encore une fois, par la marque de 79-47. C'était leur première victoire de l'année. Donc, une belle façon de reprendre un peu les rênes de notre saison. On le sait, on va accueillir le championnat canadien dans les prochaines semaines. On a de la misère au Québec présentement. C'est pas la fin du monde. Mais là, il va falloir commencer à enchaîner les victoires parce que en fait, c'est que la façon que ça marche, c'est que les quatre équipes qui remportent leur championnat de division respectif vont se classer de premier à quatrième. Donc, même si le Rougeard était pour finir, faire les séries difficilement, mais gagner le championnat québécois, ben on se retrouverait dans les 4 premiers quand même. Mais si on était pour avoir une saison un peu difficile et se retrouver avec la 8e place disponible, parce que justement, on est l'équipe haute, on est assuré d'être qualifié, et qu'on affrontait la meilleure équipe, le meilleur champion de division, probablement en Ontario, ça serait compliqué. Donc si on peut commencer à gagner des matchs, ça va nous faire du bien, c'est certain. On verra, écoute, dans les prochaines semaines. C'est une saison qui est jeune, on a une 15aine de matchs à jouer durant la saison, il y a des matchs hors concours aussi dans le temps de Noël. On le sait, la saison va prendre un certain congé là à partir de début décembre, je dirais, là, jusqu'à mi-janvier. Ouais. Donc ça va peut-être faire du bien aux gars là, de pouvoir se retrouver, avoir des matchs préparatoires pour revenir en forme durant la saison. C'est drôle parce qu'en match préparatoire, on a battu une équipe comme Western qui est classé dans le top 10 au Canada, mais là on a un peu plus de misère. Je sais pas si Western, on était à Québec là. Peut-être que Western a peut-être pas amené tous leurs joueurs. Sydney était pas là non plus, donc écoute, on verra à ce niveau-là qu'est-ce qui arrivera. Vas-y.
Ils ont beaucoup de joueurs de l'année passée qui reviennent, alors que c'était une bonne saison l'année dernière là. T'sais, il avait pas gagné, mais il y avait de quoi à bâtir là-dessus.
Ouais.
C'est, t'sais, comme t'as dit, la saison est jeune, c'est pas nécessairement c'est pas le temps de peser sur le bouton panique, mais d'avoir notre première victoire, là, je pense que ça va faire du bien. Ça serait dommage là, de se présenter au championnat canadien avec une équipe qui est pas de calibre. Je pense pas que c'est le cas. Je pense que le talent est là du côté du Rougeard. Ouais. Ils l'ont prouvé l'année dernière. Faut juste que ça clique ensemble, qu'ils réussissent à enfiler des victoires, reprendre confiance en eux. Je pense que même si c'est un entraîneur qui peut être parfois difficile sur ses joueurs, je pense que c'est un entraîneur qui a connu beaucoup de succès aussi, notamment avec Basketball Québec. Des joueurs qui ont joué pro aussi avec l'Alliance. Les ingrédients sont là, faut juste faire la recette comme du monde tant qu'à moi là.
Ouais, exact. On verra. Écoute, c'est une belle équipe quand même là. Je pense qu'on verra justement ce qu'ils pourront faire dans les prochaines semaines. Les 2 athlètes de la semaine étaient justement de ces équipes de basketball là. C'est ça que j'essaie de te dire tantôt. Donc c'est pour ça que je dis qu'on en allait en reparler. Mais Léa, Sophie Verret et Ismaël Diouf qui ont été les 2 athlètes de la semaine au niveau du Rougeard global. C'est deux gars, un gars et une fille qui ont été vraiment dominants. Léa, Sophie Verret, si jamais vous avez avez la chance d'aller voir un des matchs des filles, vous allez voir à quel point elle est dominante. Vous avez pas, j'ai pas besoin de vous dire son numéro, vous allez voir assez vite qui elle est.
Celle qui est meilleure que toutes les autres sur le terrain, c'est.
Exact. Donc voilà, les filles, écoute, qui sont encore dominantes, qui ont toujours aucune défaite.
Classées 8e au pays.
Exact. Donc et encore là, même chose de leur côté. Si on était capable d'aller chercher le championnat au Québec, ben ça nous donnerait au minimum une place dans le top 4 pour le championnat canadien. Mais à ce niveau-là, on ne jouera pas le championnat à la maison. Donc on peut pas se permettre une séquence de défaites pour parce que justement si on n'est pas pour être champion, on aura besoin d'être qualifié avec le vote des experts pour ça. Donc on verra, écoute, à ce niveau-là quelle sera la fin de saison, mais pour l'instant l'équipe est en grande forme, toujours pas perdu dans la saison, 4 victoires dans l'année. Écoute, du côté du volley, les gars ont une excellente saison présentement. Là, on a 4 victoires, 1 défaite. Sherbrooke pour l'instant la meilleure équipe de la division avec 6 victoires, aucune défaite. Chez les filles, t'en avais parlé un peu, on est un peu peut-être moins à maturité que ce que les gars sont.
Sans parler de reconstruction parce qu'il n'y a pas d'échange et tout ça, mais c'est ça, le programme avait beaucoup de jeunes joueuses donc qui sont en train de prendre l'expérience.
Exact. Et au final, on verra. Écoute, c'est une équipe quand même qui est intéressante et qui est classée 5e présentement au Québec. 5 victoires, 4 défaites. On peut se battre pour tenter d'aller chercher une place en série. On le sait, si je me rappelle bien, c'est les 4 meilleures équipes qui se qualifient. Donc, tu sais, on n'est pas si loin que ça de se battre pour justement ce poste-là. C'est les Sherbrookeois qui dominent au volleyball cette année avec autant chez les filles que chez les gars. On verra encore là, je veux dire, c'est une saison qui est jeune. T'sais, on est à 5 victoires, 4 défaites et au final, la première position est à 7 victoires, 3 défaites. Donc, on n'est pas non plus à 15 matchs derrière. Non, non, on n'est pas largué. Donc, on a encore une chance justement de se battre pour aller chercher des points importants, aller chercher des matchs importants. Encore une fois, la saison est longue au volleyball comme au basket. On a 18 matchs à jouer. Là. Donc, écoute, seulement 9 matchs de jouer. Donc, presque la moitié de la saison de fait. Donc, on aura besoin d'avoir une bonne fin de saison, mais on peut encore se battre pour aller chercher peut-être une place en série. L'UQAM et l'Université de Montréal qui occupent justement les 3e et 4e places.
Ouais, aussi du côté des gars là, au volleyball, classé 10e au pays.
Ouais.
Je sais pas. Moi, je pense que... Je me considère pas comme un expert en volleyball, mais je pense qu'encore une fois, c'est peut-être un peu trop bas. Je pense que l'équipe du Rouge et Or là, est équipée pour faire des dommages cette saison. D'ailleurs, on va essayer d'avoir un joueur en entrevue. On travaille là-dessus. Là.
Ouais, puis là, ben écoute, je vais être à tous les matchs en fin de semaine. Donc, écoute, j'ai
nos yeux seront sur place.
Exact, j'ai des obligations pour faire les matchs. Donc, tu sais, au final, je devrais être capable d'avoir un peu de contenu pour ça a été un peu plus difficile, mais
je serai sur place aussi. Vendredi et samedi. Vendredi pour le volley.
Ouais.
C'est qui est sur place déjà, qui vient jouer contre le Rouge et Or?
T'as peu, moi, te trouver ça. Ce sera pas
bien, mais dire Sherbrooke, mais je suis certain.
Cette semaine...
Concordia, je sais que Concordia vient pour le basket.
Cette semaine, le Rouge et Or... en fait, il y a plusieurs matchs en fin de semaine à Laval. Donc, si vous avez vendredi soir ou samedi dans la journée de libre, là, vraiment, il va y avoir du très beau calibre à pouvoir observer cette semaine. Au final, on a donc les filles du Rouge et Or volley qui affrontent McGill vendredi soir à 18h.
C'est Dalhousie aussi.
Exact. Pour les gars affrontent Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Le match sera à Laval à 19h30 vendredi. Samedi, on aura justement des matchs de volleyball et de basketball, alors que les gars réaffrontent Dalhousie dans un programme double à 13h30 dans l'après-midi. Les filles de basketball vont suivre finalement à 18h avec un match contre les Stingers de Concordia. Et les gars vont affronter aussi les Stingers de Concordia à 20h. Donc, je vais être à tout ça. Donc, écoute, la semaine prochaine, on aura en masse de contenu pour l'émission. Mais pour revenir justement là-dessus, c'est des matchs qui commencent, tu sais, plus que la saison avance, plus que les matchs sont importants, plus que tu as besoin justement d'avoir prendre du rythme. Mais là, contre Concordia comme ça, le basketball, surtout masculin, c'est des matchs qui vont être importants parce que on a perdu contre Concordia en début de saison. Là, j'essaie justement de retrouver ça. Mais, tu sais, Concordia, c'est une équipe qui présentement se retrouve avec 2 victoires, 2 défaites. On pourrait se retrouver avec la même fiche qu'eux si jamais on était capable de les battre. Laval qui a une victoire, trois défaites. On avait perdu dans un match un peu décevant parce que Concordia, on s'attendait pas à les voir aussi bons. On savait que Bishop et que Bishop allait être excellent. Mais justement, de perdre ce match-là contre Concordia en début de saison, ça a fait mal. Est-ce qu'on peut justement revenir de l'arrière, aller chercher une grosse victoire qui serait importante contre Concordia pour se retrouver peut-être à égalité pour la troisième place? Ben, je pense que ça serait important parce que là, si on tombe à 1-4, on commencerait à avoir un peu plus de difficultés à se battre pour une place. Ben, on sera encore en position de série. Là. Les quatre meilleures équipes font les séries sur 5. Là. Normalement, à moins d'une surprise générale, on devrait faire les séries parce que McGill a vraiment de la misère cette année. Mais je pense que si on peut revenir dans l'équation et pouvoir se battre justement pour ça, ça peut devenir intéressant. Écoute, je pense que on est rendu là pour Laval d'enfiler les victoires, ça va être important. Chez les filles, ben c'est simplement de continuer exact. Comme on fait et continuer à dominer comme on le fait. Concordia, c'est une équipe qu'on a battue en début de saison avec une victoire de 67-59. Concordia, c'est la deuxième équipe dans la province présentement. On sait que l'UQAM avait été la meilleure équipe l'année passée en gagnant le championnat québécois. Et là, se retrouve avec aucune victoire, quatre défaites en saison. Donc, Concordia, peut-être l'équipe qui va donner le plus de fil à retordre cette année aux Lavalloises. Donc, un autre gros match à ce niveau-là. Si on était pour perdre ce match-là à Laval, ben, on se retrouve à égalité avec Concordia en première place. Donc, un match important. Et écoute, du côté du volleyball, ben, les gars affrontent Dalhousie, comme on l'a dit, deux fois. J'essaie de voir, là, j'ai un blanc sur ce que Dalhousie est à deux victoires, quatre défaites. Laval avait quatre victoires, une défaite. Ça va être encore une fois un match important parce que justement, si on est pour perdre ces deux matchs-là, ben, on se rapproche, Dalhousie va se rapprocher assez rapidement de nous. Donc, pour Laval, encore une fois, ces deux matchs vont être importants. On le sait, Dalhousie, on les affronte, je pense, seulement deux fois à Québec, là. Donc, ça doit être les deux seuls matchs à Québec.
C'est loin, là. Fait que c'est ça, il essaie de rapprocher les matchs, les déplacements, là.
Pour l'instant, écoute, Dalhousie est pour l'instant dans l'équation pour se battre pour la troisième place. Ben, si jamais on était pour finir troisième, que Laval finissait deuxième, ben, ce serait peut-être un match contre Dalhousie, ben, des matchs contre Dalhousie en séries éliminatoires. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, ça peut être une préparation pour ce genre de match-là en série. Donc, des matchs importants pour eux, des matchs importants pour nos équipes. On verra ce que ça donnera. Du côté des filles, ben, on affronte McGill. McGill qui est classé deuxième cette année. Donc, un beau défi pour eux. On peut justement voir si après cette victoire-là, quand même, c'est le genre de match qui peut faire une différence, là. Quand on perd 2-0, on va chercher une victoire, c'est du momentum qu'on a en banque, là. Donc si on peut reprendre justement où est-ce qu'on a laissé, aller donner un bon match à McGill, se retrouver encore une fois avec une belle victoire qui nous ramènerait à la même fiche que cette équipe-là, ben ça serait intéressant. Donc on verra pour eux ce qui sera possible, mais c'est un match pour eux aussi qui sera important.
Ouais, il y a du bon sport en fin de semaine, beaucoup d'action au PEPS. Ouais. On va peut-être conclure aussi, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, là, mais les équipes féminines du Rougeard ont connu beaucoup de succès. Les quatre équipes féminines du Rougeard qui sont en action à l'automne ont gagné le championnat québécois. Certaines, comme les joueuses de rugby, ont un championnat canadien aussi.
Ouais.
Mais on en a parlé, là, le rugby a gagné au Québec. L'équipe de cross-country a gagné.
En fait, non, c'est pas vrai. Les filles de rugby n'ont pas gagné au Québec, mais ont gagné au Canada. Parce qu'ils ont perdu
contre Ottawa. Toutes les équipes ont gagné un championnat.
Exact. Ouais. Je pense que s'ils avaient à faire un choix entre celui du Québec et celui du Canada, ils prendraient celui du Canada.
Justement. Probablement,
fait que,
oui.
Fait que je pense qu'ils sont assez contents de ce qu'ils ont déjà en banque. Mais ouais, donc tout le monde en a déjà gagné un. Mais t'sais, même les filles de soccer ont une troisième place au championnat canadien. Donc non, c'est vrai, c'est une belle...
Faudrait pas oublier l'équipe de golf aussi qui a gagné le championnat de la RSEQ.
Ouais.
Donc c'est ça.
Ouais, exact. Et là, tu sais, on va voir justement ce qui arrivera avec nos équipes, mais on a des belles choses qui s'en viennent, là. On le dit souvent, comment le Rougeard a des belles installations puis des belles réussites dans le sport, mais justement on a encore une équipe de volley qui a une chance de se battre pour un champion canadien, champion québécois aussi. Les filles au basket ont aussi une chance de se battre pour ça. Laval chez les gars au basket vont avoir le champion canadien. Donc il y a encore beaucoup de potentiel. On verra justement ce qui sera possible. Il y aura du soccer aussi intérieur qui s'en viendra. Donc, les filles devraient être encore extrêmement solides cette année. Encore là, ce sera une belle occasion pour toutes ces équipes-là de pouvoir voir ce qu'ils peuvent faire. Et j'en parlais justement, la fin justement de la saison d'automne, en quelque sorte, début hiver, là, donc qui se terminera le 7 décembre. On va reprendre l'action avec des matchs en concours durant le temps des fêtes, mais on aura justement le retour à l'action compétition le 4 janvier, donc aux alentours d'un mois là, de congé pour toutes nos équipes. Donc encore là, ce sera justement le temps de recharger les batteries pour arriver fin prêt. Et écoute, un autre match qu'on n'aura pas le choix de suivre parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est le match entre les Carabins et UBC. Je m'attends à un match à sens unique. On verra ce que
ouais,
ça donnera.
J'ai un peu dans ma tête, j'ai fait le deuil. Les Carabins ont maintenant deux coupes Vanier.
Ouais, mais écoute, on sait jamais. C'est une coupe Vanier. Ouais, c'est une coupe Vanier. On sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que je m'attends pas à une domination en termes de points nécessairement. Je pense pas que ça va se terminer 38-0. Mais je pense que vu que c'est une coupe Vanier, on va se méfier des deux côtés. On ne voudra pas faire d'erreur. On va vouloir rester assez conservateur. Mais je m'attends quand même que Montréal prenne le contrôle du match assez vite puis qu'on contrôle le match le plus possible parce que j'en parlais un peu avec quelques amis là, en fin de semaine, mais t'sais, cette équipe-là des Carabins a été absolument indétrônable depuis quelques matchs. Écoute, dans la séquence des 5 derniers matchs qu'on a joués à la maison, parce que les 5 derniers matchs qu'on a joués étaient à la maison, on a affronté Laval 2 fois, on a affronté Western, donc 2 des probablement 5 meilleures équipes au pays. On a affronté Concordia qui a eu une bonne fin de saison et on a affronté Sherbrooke. Là-dedans, on a accordé un seul touché dans tous ces 5 matchs-là. Oui, oui, un seul touché. On a accordé 0 point contre Laval dans le match en saison. Pas de touché, évidemment. Un touché contre Concordia dans un match qui voulait rien dire. On a accordé 16 points. On a perdu ce match-là par 16-14. Mais c'est un match qui valait absolument rien dans le
classement. Zéro touché 2 fois contre Laval.
Exact. Zéro touché contre Sherbrooke en demi-finale québécoise. On a accordé 3 points. On a accordé 6 points, pas de touché contre Laval. On a accordé aucun touché aussi contre Western, 3 points.
Qui était classé meilleure équipe au pays.
Exact. Donc je pense que.
Et à cause de son attaque, pas à cause de sa défense.
Ouais, donc on verra si on peut marquer des touchés du côté de UBC. Mais écoute, la foule a fait un beau travail probablement aussi pour aider
pas facile
aider la
jouer au Sepsum
ouais, exactement on l'a vu avec plusieurs punitions de procédure donc
on le savait probablement déjà mais ouais, en tout cas ils l'ont pas oublié ouais, là, pendant ouais, la finale québécoise
exact donc ça va donner clairement un match défensivement très solide je pense pour Montréal mais écoute c'est une équipe qui va arriver forte si on peut marquer un toucher tu sais. C'est le genre de match que si on donne plus de 15 points à Montréal, je pense que ça devrait fermer les livres ouais, là, parce qu'on n'accorde pas beaucoup de points depuis les derniers matchs. Si Montréal réussit à mettre quelques points en partant, là, si on prend les devants rapidement, c'est ça le problème contre Montréal, c'est que dès qu'on a les devants, ben on prend le ballon, on s'assure de pas le redonner, de pas faire d'interceptions de jeux qui seraient négatifs. Et au final, on redonne le ballon à l'autre équipe dans leur territoire et c'est extrêmement dur d'amener le ballon dans la zone des buts ou même d'aller chercher des points. Donc, si les Carabins peuvent prendre les devants rapidement, ben, je pense qu'on le bateau devrait voguer vers une victoire de la Coupe d'Entremont. On verra, écoute, qu'est-ce que ça donnera.
On verra, c'est samedi prochain, si je ne me trompe pas, ouais. Le match. Écoute, par contre, Victor, je vais t'interdire de conclure avec les Carabins.
Non, mais écoute, on peut conclure. On va, on va avoir des nouvelles probablement du recrutement dans les prochaines semaines.
Exact.
Donc, est-ce que le Rougeard pourra refaire le coup avec du recrutement extraordinaire? J'en ai parlé un peu dans la dernière émission, mais ce sera à surveiller parce que là, avec les bols d'or qui sont terminés, avec les saisons même aux États-Unis qui se terminent, ben, ça va donner justement plus de latitude aux coachs puis aux responsables du recrutement pour aller faire des annonces. On a vu quelques annonces ici et là. Il n'y a pas encore de grosses annonces qui ont été faits, donc des joueurs dominants qui ont été prévus pour d'autres équipes. Écoute, quand ça arrivera, on en parlera, mais pour l'instant, écoute, le Rouge et Or qui va devoir faire le plein à plusieurs positions, j'en avais parlé un peu la semaine passée, mais on verra ce que ça donnera, mais c'est la saison du recrutement qui s'en vient, c'est peut-être la saison préférée de certains, de Mathieu Bertrand, peut-être même là, de pouvoir aller faire ces recrutements-là, d'aller peaufiner son équipe et faire l'équipe à leur image, mais ce sera surveillé, mais probablement que d'ici à Noël, on devra avoir quelques recrutements, d'ici à juste un peu avant le temps des fêtes, là, d'ici au 15 décembre, on devra avoir peut-être une vague de recrutement. Après ça sera en janvier qu'on aura cette vague-là, parce que d'habitude, les joueurs qui décident d'aller à l'université dès janvier, ben sont recrutés plus vite par les universités. Ben là, on devrait pas avoir beaucoup de recrutement d'ici là pour janvier, mais dès qu'on va arriver durant la session d'hiver, on devra avoir plus d'annonces à ce niveau-là.
Parfait, ça sera surveillé. J'aimerais aussi dire que personnellement, j'aimerais bien voir le championnat de basketball féminin canadien à Québec.
Ben écoute,
je pense que les filles le méritent.
Ouais.
On l'a vu, le Cégep Sainte-Foy a connu beaucoup de succès avec sensiblement les mêmes joueuses qui jouent pour l'Université Laval en ce moment. Ouais. Là, les filles connaissent beaucoup de succès. On l'a pour les gars cette année. On a montré à Québec, on a battu le record de foule pour un match de sport universitaire féminin avec le premier match du championnat canadien de rugby.
Ouais, exact.
Je pense que Québec pourrait vibrer basketball si on l'amenait l'événement à Québec.
Ouais, exact.
Donc c'est mon plaidoyer pour le U Sports s'il nous écoute.
Ouais, écoute, ben possible, ben écoute, on sait jamais, mais ça serait clairement un bel événement. Puis je pense qu'on pourrait remplir le stade autant qu'on le fait, qu'on va le faire probablement avec en mars avec les gars. Là, ouais.
Exact. Sur ce, vous avez écouté Constant Sportif sur les ondes de Chiz 94.3. Bonne soirée.